Vincent Planche, qui est neurologue responsable du Centre Mémoire, Ressources et Recherches au CHU de Bordeaux. Et avec vous, nous allons parler des médicaments. Vous savez, ces médicaments contre la maladie d'Alzheimer qui ont suscité de nombreuses polémiques. Ils ont été déremboursés hein, malgré les demandes des familles. Et puis, il y a une nouvelle molécule qui fait parler d'elle aujourd'hui. Alors, il faut rester bien sûr très très prudent, mais elle suscite de l'espoir. Le docteur Vincent Planche va nous la présenter. Je dirais même, vous allez nous présenter ce nouveau médicament, parce qu'on peut l'appeler médicament, étant donné qu'il est commercialisé déjà aux États-Unis.
Tout à fait, oui. Merci pour cette introduction. Je suis neurologue au CHU. Je suis responsable du Centre Mémoire Ressources Recherche. Bon, je ne sais pas si je peux avoir accès à mes diapositives. Ou pas. Merci. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Oui, alors effectivement, on pourra revenir après, si vous voulez. On peut discuter très longtemps de ces quatre médicaments dont on a toujours besoin et qui sont malheureusement déremboursés. Mais effectivement, tout de suite, on m'a demandé de vous parler de l'aducanumab. Alors l'aducanumab, c'est vraiment cette molécule qui a fait du bruit, on va dire, cette année, en tout cas, qui a fait toute l'actualité médicale et scientifique dans la maladie d'Alzheimer. Puisque, sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, effectivement, le 7 juin dernier, la FDA, donc la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament, a autorisé la mise sur le marché américain de ce médicament, l'aducanumab. Ça a fait les gros titres de beaucoup de journaux, avec effectivement des informations clés qui séduisent beaucoup. C'est le premier médicament contre la maladie d'Alzheimer qui est mis sur le marché depuis plus de 20 ans. Le dernier, c'était la mémantine en 2001. Et c'est aussi, et c'est vrai, le premier médicament sur le marché à cibler la cause de la maladie et non pas à essayer de traiter les symptômes. Donc c'est un véritable changement de paradigme. On ne cherche plus à essayer de traiter les symptômes de la maladie d'Alzheimer, contrairement aux médicaments qui ont été mis sur le marché il y a 20 ans. On s'adresse cette fois-ci directement à la cause de la maladie. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour vous expliquer un petit peu l'aducanumab, je suis un petit peu obligé de vous parler de molécules et de physiopathologie et de biologie de la maladie d'Alzheimer. L'hypothèse, la théorie dominante pour expliquer le développement de la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle la théorie de la cascade amyloïde. La cascade amyloïde, alors non, vous pouvez revenir en arrière, merci. La cascade amyloïde, elle postule qu'à l'origine de toute chose, dans la maladie d'Alzheimer, il y a la plaque amyloïde. C'est la lésion que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Cette lésion amyloïde, c'est des dépôts de protéines amyloïdes dans le cerveau des patients. On pense qu'ensuite, cette protéine amyloïde, elle est responsable d'une autre anomalie qu'on appelle la phosphorylation et l'agrégation de la protéine tau à l'intérieur des neurones. Et c'est ce que vous voyez sur l'autre image. Et cette protéine tau, on pense, vous voyez ce phénomène en cascade, on pense que cette protéine tau, elle, c'est celle qui cause la mort des neurones. Et bien sûr, qui dit mort des neurones, dit ensuite atrophie cérébrale, apparition des premiers troubles cognitifs, aggravation des troubles cognitifs et apparition de la perte d'autonomie et donc des véritables symptômes de démence, puisque vous savez qu'on parle de démence à partir du moment où un patient perd son autonomie à cause des troubles cognitifs. Bref, à l'origine de toute chose, il y a cette plaque amyloïde. Alors je veux bien que vous mettiez la flèche maintenant. Évidemment, si on dit qu'à l'origine de toute chose, il y a la plaque amyloïde, ça devient la meilleure des cibles thérapeutiques. Si on veut designer un médicament pour bloquer, limiter l'évolution de la maladie d'Alzheimer, évidemment, il faut s'attaquer à cette plaque amyloïde, surtout qu'on sait que ces plaques amyloïdes, elles apparaissent probablement 10 ans, 15 ans, 20 ans avant le début des tout premiers symptômes. Ensuite apparaît, et c'est les séquences là que vous voyez en couleur, ensuite apparaissent les anomalies de la protéine tau, les anomalies de la synapse, la mort des neurones, l'atrophie et les troubles cognitifs. Mais diapositive suivante, si on bloque avec un médicament, si on bloque ces plaques amyloïdes, si on élimine ces plaques amyloïdes suffisamment tôt, j'ai mis ma croix, vous voyez, au moment où les premiers symptômes apparaissent, là, les petits traits, c'est le MCI, c'est le trouble cognitif léger. Si on élimine les plaques amyloïdes à ce stade très précoce, alors tout ce qu'il y a en aval de la cascade, je suis désolé, les petits traits sont un peu décalés, mais tout ce qu'il y a en aval de la cascade, toutes les conséquences de ces plaques amyloïdes, bah, tout doit s'arrêter. Effectivement, si cette théorie de la cascade amyloïde est vraie, j'élimine les plaques amyloïdes, je bloque tout ce qui s'ensuit. Donc, plus de modification de la protéine tau, en tout cas pas de nouvelle modification de la protéine tau. La courbe que vous voyez par exemple en bleu, l'atrophie cérébrale, bah, elle était en train de monter, mais pof, elle va se bloquer. Et les premiers troubles cognitifs, bon, certes, ils sont apparus, ils sont déjà là, on pourra pas revenir en arrière, mais pof, on les bloque. Et donc la petite courbe marron là, qui est au ras des pâquerettes sur ce schéma maintenant, c'est-à-dire le retentissement sur l'autonomie, ben, on peut même imaginer que ça n'apparaîtra jamais si on traite suffisamment tôt, dès les premiers signes cliniques. Alors, diapositive suivante. Alors du coup, c'est très à la mode en médecine, là, depuis une vingtaine d'années, on utilise des anticorps monoclonaux. En fait, c'est assez facile quand on a l'habitude. C'est dans le nom du médicament, ça se termine par MAB. Tous les médicaments qui se terminent par MAB. MAB, ça veut dire monoclonal antibody, anticorps monoclonal. Alors nos confrères cancérologues utilisent ces médicaments depuis très longtemps. Ils permettent de cibler très spécifiquement une protéine de l'organisme. Idéalement, vous imaginez bien une protéine qui est responsable d'un processus physiopathologique. Alors, en cancérologie, ils en connaissent plein des protéines à les cibler à la surface des cellules tumorales pour les éliminer. Et on a fait un raisonnement un petit peu similaire dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. On s'est dit, bah, les patients, ils ont des plaques amyloïdes dans le cerveau. On n'a qu'à aller leur donner un anticorps qui reconnaît ces plaques amyloïdes. Et c'est ce que vous voyez sur ce schéma. On fait des perfusions d'anticorps à ce monsieur. Ces anticorps passent dans le sang. Certains de ces anticorps, une petite proportion, 1%, 2%, arrivent à passer la barrière hématoencéphalique, à rentrer dans le cerveau. Et du coup, ces anticorps, ils vont faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire se fixer sur les plaques amyloïdes. Et le petit dessin que vous voyez en bas à droite, quand un anticorps se fixe sur quelque chose, que ce soit une protéine, une bactérie, un virus, il ramène tout le système immunitaire à lui. Et c'est notre système immunitaire, en tout cas celui des patients, qui, du coup, va reconnaître les plaques amyloïdes comme étant anormales grâce à l'anticorps qui s'est fixé dessus. Et c'est les cellules immunitaires du patient qui va débarrasser ce même patient de ses plaques amyloïdes. Je veux bien la diapositive suivante. Alors, juste pour la petite histoire, c'est des anticorps anti-amyloïdes, il y en a pas mal qui ont été développés. Il y en a 6 ou 7 qui ont vu des phases 3, donc des phases cliniques assez avancées, qui ont été beaucoup testées. L'aducanumab, il a une petite spécificité qui est assez intéressante dans son développement, c'est que en fait, le laboratoire qu'il a mis au point avant de le revendre au laboratoire Biogen est parti d'un principe, c'est que on sait que dans la population, il y a des gens qui ont 100 ans et qui sont en parfaite santé cognitive. Et on sait que dans le cerveau de ces gens-là, il n'y a pas de plaque amyloïde. Rien, c'est incroyable. Ils sont très vieux, qui est quand même le principal facteur de risque de développer une maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Ils ont 100 ans, ils n'ont pas une plaque. Et ils se sont dit, est-ce que ces gens, par hasard, n'auraient pas développé d'eux-mêmes des anticorps anti-amyloïdes? Parce que vous savez, en fait, on passe nos journées sans le savoir à développer des anticorps au hasard. Certains servent à quelque chose et nous permettent de nous défendre contre des bactéries ou même des cellules tumorales. D'autres ne servent à rien. Bon, tant pis. Et donc, ils sont allés chercher ces gens-là, ces super centenaires en très bonne santé, s'ils n'avaient pas dans le sang des anticorps anti-amyloïdes. Et en fait, ils ont réussi à en isoler. Donc, ils les isolent. Ils sont capables de cloner, d'amplifier les cellules immunitaires qui produisent ces anticorps. Et on est capable de produire ensuite, en très grande quantité, ces anticorps anti-amyloïdes qui ont donc été isolés et identifiés chez des patients âgés en super santé cognitive. Je dirais que le concept est très séduisant. Alors, au-delà du concept, et je viens à la diapositive suivante, bien sûr, le concept est intéressant. Chez le modèle animal de la maladie d'Alzheimer, chez les souris, ça marche formidablement bien. Qu'en est-il chez l'homme? Ce médicament a commencé à beaucoup faire parler lui en 2016. Vous avez vu qu'ils ont même fait la couverture du très célèbre journal Nature avec cette image. Alors, peut-être comme ça, ça ne vous saute pas aux yeux. Pour un neurologue qui fait de l'Alzheimer, on se dit « Oh la miracle !» À gauche, vous avez une TEP amyloïde. Vous savez, ces examens, alors malheureusement, qui ne sont pas remboursés en France, mais ce sont ces examens qui permettent de voir avec un scanner les plaques amyloïdes dans le cerveau. Globalement, pour faire très simple, quand c'est rouge, il y a de la plaque amyloïde. Et vous voyez le même patient, avant de prendre le médicament, il y a de la plaque amyloïde, son cerveau est tout rouge. Et après un an de traitement, il y a du jaune, mais le jaune, c'est encore normal. Sa TEP amyloïde est complètement normale. Il n'y a plus. Pas plus de plaque amyloïde après un an de traitement. Et ça, bon, l'image est spectaculaire, mais ça a été confirmé dans un premier essai clinique qui date de 2016, et puis dans des essais cliniques ultérieurs. L'efficacité biologique de ce médicament est indiscutable. C'est un véritable aspirateur à plaques amyloïdes. Ça détruit toutes les plaques amyloïdes du cerveau des patients. Alors, bah, formidable. Et une efficacité biologique indiscutable, c'est très, très enthousiasmant, très porteur d'espoir, mais qu'en est-il de la clinique? Parce que c'est ça qui est important. Éliminer des plaques amyloïdes, c'est bien, c'est joli pour la biologie, mais est-ce qu'il y a un retentissement clinique? Est-ce qu'il y a un impact clinique? Alors, diapositive d'après, Avec ces résultats biologiques très encourageants, le laboratoire a mené deux très gros essais de phase 3. Vous savez que c'est les essais qui permettent vraiment de montrer l'efficacité clinique d'un médicament, et c'est ce qui permet de le mettre ensuite sur le marché. De très gros essais de phase 3, deux fois 1600 patients, à peu près partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental. En France, bien sûr, on participe. Nous, à Bordeaux, on a eu 6 ou 8 patients dans l'étude Engage, pour voir s'il y a une efficacité clinique de ce médicament. Et malheureusement, et ça, je veux bien la diapo d'après, suspense. Et la diapo encore après, pour la faire courte. Merci. Deux essais cliniques, tout à fait similaires l'un avec l'autre. La diapo est en anglais, elle est un petit peu compliquée, mais je vais vous l'expliquer. Tout à fait similaires l'un avec l'autre, qui se font en parallèle, quasiment en même temps. Et au final, je vous passe les détails, il y a eu beaucoup de rebondissements dans ces essais cliniques, mais au final, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a un essai qui est positif et un essai qui est négatif. Vous voyez, les petits bonhommes sont assez parlants. Premier essai, donc l'étude Engage, celle auquel on a participé d'ailleurs, dans le groupe placebo, alors la CDR, c'est un test qu'on aime bien en recherche clinique, les patients sous le placebo, vous savez, c'est des essais contrôlés, randomisés, on double aveugle, le patient, le médecin, personne ne sait si le patient prend du placebo à des perfusions d'eau salée, pour faire simple, ou bien à des perfusions d'anticorps. Sous placebo, ils perdent 1,56 points au bout de 18 mois. Sous traitement actif, ils en perdent 1,59. Il ne se passe rien. Et dans l'autre essai, pareil, hein, randomisé, double aveugle, placebo, tout ce que vous voulez, dans le groupe placebo, ils perdent 1,74 points, et dans le groupe traité à forte dose, 1,35, ce qui n'est pas une taille d'effet énorme, mais c'est statistiquement significatif. Et cette différence qu'on voit au bout de 18 mois, on peut imaginer qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, elles grandissent avec le temps, puisqu'il s'agit d'un traitement disease modifier qui bloque et ralentit l'évolution de la maladie. Alors, au milieu de tout ça, et vous voyez qu'ils l'ont montré aussi sur d'autres critères, le MMS que vous connaissez peut-être, ou d'autres échelles de mémoire. Alors, où est la vérité ? Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Toujours est-il que, et je veux bien la diapositive suivante, avant d'en arriver à notre conclusion, bien sûr, ces médicaments, comme tous les médicaments actifs, ont des effets indésirables. Alors, ces effets indésirables sont très ciblés, c'est l'avantage des immunothérapies. Hein, on cible une protéine très précisément, donc peu d'effets indésirables, mais un effet indésirable notable, qui est l'apparition d'œdèmes, et pardon, les petites taches blanches que vous voyez sur ces IRM, l'apparition d'œdèmes ou de micro-saignements dans le cerveau. C'est lié au mécanisme d'action de ces médicaments. Je vous l'ai dit, hein, c'est des anticorps qui recrutent le système immunitaire pour être efficace. Donc, ça crée un petit peu d'inflammation, ça crée un peu d'œdème, parfois un petit peu de saignement. La plupart de ces anomalies à l'imagerie sont asymptomatiques. Si elles sont symptomatiques, elles sont peu symptomatiques. Ça donne des vertiges transitoires, ça donne des maux de tête. Mais dans quelques cas, assez rares, mais non négligeables, ça peut donner des vrai déficit neurologique avec des conséquences importantes, notamment s'il y a de l'hémorragie. Donc ce ne sont pas, loin de là, des médicaments dénués d'effets indésirables. Alors que faire avec tout ça ? Et je veux bien la diapo suivante. Là aussi, la diapo est en anglais, mais il y a eu pas mal de discussions, vous imaginez bien, pendant un an et demi, entre la FDA d'un côté et puis le laboratoire Biogen de l'autre, qui arrive en disant... J'ai un essai positif, là, dans l'Alzheimer, en plus, un médicament qui est hyper efficace biologiquement, il faut le mettre sur le marché. Surtout que si, et ça c'est le laboratoire qui le dit, bien sûr, il cherche des arguments pour la mise sur le marché, si je réanalyse mon essai négatif en regardant vraiment les gens qui ont pris la plus forte dose, en fait, il est positif. Oui, enfin d'accord, le statisticien de la FDA, il a fait la même chose dans l'essai positif. Si on cherche un petit peu aussi, on peut le transformer en essai négatif. Donc la FDA, elle a interrogé un panel d'experts indépendants, 11 personnes, complètement indépendante de la FDA, qui est elle-même un organisme public. Ces 11 experts indépendants, ils ont répondu à 10 sur 11, sachant qu'il n'y en a qu'un qui s'est abstenu, à 10 sur 11, ils ont dit « ce médicament n'a pas sa place sur le marché. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve, véritablement, de l'efficacité clinique de ce médicament. C'est trop tôt pour le mettre sur le marché. » Ah, rebondissement, on pensait qu'on n'allait jamais voir l'aducanumab sur le marché américain. Et finalement, 6 mois plus tard, la FDA met ce médicament sur le marché. Alors, ce panel d'experts, il a un avis consultatif, hein, la FDA, elle fait ce qu'elle veut. Mais au final, la FDA s'est prononcée sur autre chose. Elle a dit « Ok, vous avez raison. On ne sait pas si ce médicament est cliniquement efficace, mais il est tellement efficace biologiquement, et nous, à la FDA, on est tellement convaincus que la théorie de la cascade amyloïde est exacte, que si on bloque l'amyloïde, et on nous a démontré que ça bloquait l'amyloïde, alors ce médicament a sa place sur le marché. » Je veux bien la diapo suivante. Alors, bon, bah, ce médicament est sur le marché. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Beaucoup de neurologues de par le monde ont publié cet été dans des journaux très influents, des journaux de neurologie, des journaux de médecine. La communauté est très, très partagée. Est-ce que ce médicament a sa place sur le marché? Moi, je vous livre mon avis personnel. Non, ce médicament n'a pas sa place sur le marché. On pourra en discuter. Au-delà de ça, OK, le médicament est sur le marché, mais pour quel patient et de quoi on parle? Est-ce que c'est un médicament universel pour lutter contre la maladie d'Alzheimer? Non, certainement pas. Il s'agit, et c'est ce que je vous ai illustré en introduction, d'un traitement qui est intéressant et efficace au stade très précoce de la maladie, au stade de troubles cognitifs légers, avant que la démence ne s'installe, c'est-à-dire avant que ces troubles cognitifs ne retentissent sur l'autonomie. Et donc, bien sûr, ça veut dire qu'un patient qui a déjà des symptômes trop évolués, qui serait peut-être déjà en maison de retraite à cause de ces symptômes-là, lui, ce n'est pas un candidat pour l'aducanumab. Et puis aussi, ce médicament, et c'est ce qu'ont fait certains collègues dans cet article-là, ce médicament, bien sûr, comme beaucoup de médicaments, ils sont testés sur des malades, entre guillemets, parfaits. C'est des malades qui ont une maladie d'Alzheimer et aucun autre problème de santé à côté. Parce que, bien sûr, quand on teste un médicament, des patients qui seraient à risque, de mourir dans l'année parce qu'ils ont un cancer, ceux-là, on ne veut pas trop les inclure dans l'essai. Est-ce que ce serait un effet indésirable du médicament ou le cancer? Donc, on exclut ces gens-là. On exclut les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, on exclut les gens qui ont d'autres maladies neurologiques, on exclut les gens qui sont trop vieux, là, plus de 85 ans, on exclut tous ces gens-là. Et donc, ce que mes collègues ont trouvé ici, c'est quelque chose de très simple, c'est que si on applique les critères d'inclusion des essais cliniques, donc ceux qui ont reçu les médicaments dans les essais cliniques, à la population Alzheimer américaine, on se rend compte qu'il y a seulement 10% de ces fameux troubles cognitifs légers, de tout débutant, qui pourraient recevoir ce médicament-là. Donc, en gros, tout ça pour vous dire qu'il s'agit... On peut rediscuter de l'efficacité de ce médicament, mais même si on le prescrit, ça veut dire qu'on ne le prescrira qu'à des gens qui sont au tout début de la maladie et qui, par ailleurs, sont plutôt jeunes et en bonne santé. Au-delà de leur maladie d'Alzheimer, j'entends. Diapo suivante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis assez sceptique. Je pense qu'un médicament qui n'a pas démontré d'efficacité clinique n'a pas sa place sur le marché du médicament. À côté de ça, moi-même, petit sentiment d'espoir avec ces molécules-là, non pas tellement pour ce qu'a montré le laboratoire Biogen avec cet aducanumab, mais plus pour ce qu'ont montré d'autres laboratoires avec des molécules très proches, d'autres anticorps anti-amyloïdes. Vous imaginez que tous les labos pharmaceutiques qui font un peu de neurosciences se sont engouffrés dans cette brèche. Et il y a deux essais très intéressants qui ont été publiés aussi cette année, dont un dans un très prestigieux journal, très prestigieux New England Journal of Medicine. C'est des essais de phase 2, donc qui doivent encore être confirmés, mais des essais de phase 2 qui sont positifs sur un critère clinique. Donc là, pour le coup, il s'agit de deux anticorps, toujours des noms un peu compliqués qui se terminent par MAB, lecanemab et donanemab. Et ces médicaments en phase 2 ont montré un effet contre placebo pour ralentir le déclin cognitif et fonctionnel des patients. Ces molécules sont actuellement à l'étude en phase 3 et on espère avoir le résultat fin 2022-2023. Et ça, c'est un argument très important aussi, j'espère que je ne passe pas trop mon temps, mais c'est un argument très important à rétro pour peut-être justifier que l'aducanumab est un médicament intéressant parce qu'il se dégage un effet classe. Ce qu'on observe dans ces essais cliniques, c'est qu'à niveau d'effet indésirable équivalent, à efficacité biologique sur la TEP amyloïde équivalente, ces médicaments ralentissent tous à peu près le déclin cognitif et fonctionnel de 20 à 30% par an. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que sur une échelle, au lieu de perdre 10 points sous placebo, avec le médicament, on en perd 7. Ça veut donc dire que la maladie progresse, mais qu'elle progresse moins vite que sans traitement. Et normalement, je dois avoir ma dernière diapositive. Avec quelques points de conclusion et beaucoup de questions, vous le voyez. Bon, l'efficacité biologique, personne ne le remet en question dans la communauté médicale et scientifique. C'est indiscutable, ce médicament marche très bien biologiquement. Son efficacité clinique, je vous l'ai dit et redit, reste encore à démontrer. Ils ont des effets indésirables non négligeables, et notamment ces œdèmes et ces micro-hémorragies dans le cerveau. La taille de l'effet, alors qu'est-ce qu'on appelle la taille de l'effet ? C'est de ralentir de 25%, comme je vous le dis tout à l'heure, le déclin cognitif à un an et demi. Est-ce que c'est pertinent ? Voilà. Sur le MMS, peut-être certains savent qu'on utilise beaucoup cette échelle, le MMS, pour juger de l'évolution de la maladie, vous savez, c'est des petits tests d'orientation, de mémoire et tout ça. Bah, sur le MMS, ça veut dire quoi? Dans les essais ici, ça veut dire que, au lieu, dans le groupe placebo, de perdre 3 points à 18 mois, eh ben, en fait, on perdait 2,4 points. Bon. Bah, c'est mieux que rien, mais est-ce que ce 0,6 points, c'est pertinent? Alors, à 18 mois, peut-être pas, mais comme on est sur un traitement disease modifier, qui modifie l'évolution du cours de la maladie, peut-être que à 18 mois, c'est pas grand-chose, mais que comme l'écart va grandir avec le temps, entre l'absence de traitement ou le traitement, bah, ce 0,6 points de MMS, au bout de 10 ans, bah, ça fait 5 points, ça fait 10 points, et ça fait peut-être quelqu'un qui est toujours à la maison au lieu d'être en maison de retraite. Bon, ce sera à voir dans les études suivantes de plus longue durée. Combien de temps traiter ? Une question, on n'en sait rien. Est-ce qu'il faut continuer à traiter quelqu'un qui n'a plus de plaque amyloïde dans le cerveau avec ces médicaments-là? On ne sait pas combien de temps faudra traiter les gens. Qui les traiter? J'ai un peu commencé à répondre à cette question. Des Alzheimer plutôt jeunes et en bonne santé au tout début de leur maladie. Les défis du diagnostic précoce. Alors ça, vous imaginez bien que dans les centres mémoire, quand on voit ça arriver, on se dit, attendez, 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer par an, est-ce que moi à Bordeaux... Dans mon centre mémoire, qui est censé être une grosse structure, en fait, on n'est que 2 médecins à plein temps, est-ce que je vais pouvoir absorber 20 000 patients par an pour leur faire des perfusions? Bon, ça, c'est un énorme défi, mais il y a un plus gros défi encore, c'est qu'il va falloir tous les diagnostiquer à un stade précoce. Et déjà que, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, on a du mal à diagnostiquer les gens, même aux phases un petit peu tardives, parce que les gens ne viennent même pas consulter. Alors, aller les sortir du bois à une phase précoce pour leur donner le médicament au bon moment... Notre système de santé actuel est sans doute pas encore au point là-dessus, et c'est un énorme défi. Voilà, et on en saura un petit peu plus dans à peine moins de 6 mois, normalement à la fin du premier trimestre 2022, pardon, j'ai fait une erreur, c'est la fin du premier trimestre 2022, l'Agence européenne du médicament donnera son avis, du coup, hein, après l'agence américaine, donnera son avis pour nous dire si oui ou non l'Agence européenne autorise la mise sur le marché européen de cette molécule. Voilà.